Bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous parler du principe du génotypage fœtal érythrocytaire non invasif et je vais vous faire un état des lieux des techniques utilisées. Donc tout d'abord je vais faire une brève introduction à propos des caractéristiques de l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel, ADN qui a été découvert en Denis Lowe en 1997. La première caractéristique très importante, c'est que l'ADN circulant maternel et fœtal augmente avec l'âge gestationnel. Oula. Ah, j'ai touché le fil. Je touche plus le fil. Non, je... Ah si, c'est bon. Donc on va faire là-dessus. On a 11 fois plus d'ADN fœtal entre un âge précoce et un âge tardif lors de la grossesse. La deuxième chose, c'est que la quantité d'ADN circulant fœtal entre le sérum et le plasma est le même. Par contre, la quantité d'ADN maternel est 14 fois plus élevée dans le sérum que dans le plasma. La fraction fœtale est influencée par le poids de la mère, par l'origine ethnique, ainsi que par le tabagisme chez la mère. L'ADN fœtal a été mis en évidence à partir de 7 semaines d'aménorrhée. Il se dégrade très vite après l'accouchement. Il est absent après 48 heures. Et de plus, l'ADN circulant fœtal est plus petit que l'ADN circulant maternel. Donc ça, c'est une caractéristique importante pour mettre au point les techniques. Le principe du génotypage fœtal érythrocytaire non invasif est basé sur la détermination des séquences fœtales dans le plasma maternel. Après une extraction de l'ADN du plasma maternel, on se retrouve avec un pool d'ADN maternel et de l'ADN fœtal avec un pool fœtal minoritaire par rapport au maternel. Le but du génotypage est d'identifier donc les séquences érythrocytaires fœtales chez le fœtus et absentes chez la mère, tout ça en ayant une majorité d'ADN maternel. Si les séquences sont présentes, sont identifiées, alors le fœtus va être diagnostiqué fœtus positif avec un risque d'alloimmunisation et un risque d'incompatibilité fœto-maternelle en fonction du contexte clinique. Si par contre on n'arrive pas à identifier les séquences recherchées, les séquences fœtales supposées, alors on va avoir un diagnostic par défaut qui va nous rendre le fœtus négatif et dans ce cas on aura une absence de risque d'alloimmunisation ou une compatibilité fœto-maternelle en fonction du contexte. Donc quelles sont les séquences érythrocytaires recherchées quand on fait du génotypage fœtal non invasif ? Le premier antigène qui est cherché, c'est le RH1. Donc l'antigène RH1 est codé par le gène RH qui est localisé au niveau du locus il est codé par le gène RHD qui est localisé au niveau du locus RH qui est constitué de 3 gènes dont le gène RHD et le gène RHCE. Le gène RHD code pour une protéine RHD et l'antigène RHD est une mosaïque d'épitopes qui est présente tout au long de la molécule. Et donc quand on va chercher les séquences RHD fœtales, il faut rechercher à peu près toutes les séquences RHD codantes. Et cette recherche de séquences codantes fœtales va se faire dans un contexte où la femme qui est RH-1, donc RHD négatif, peut avoir 3 types d'allèles présents. Dans 99% des cas des caucasiens RH-1 et 33% des Africains noirs, l'allèle RHD présent est une délétion du gène complet du gène RHD. Pour 66% des Africains noirs, on a un allèle DEPSI qui correspond à la présence de séquences RHD non fonctionnelles, donc il n'y aura pas de protéines, et cela est dû à des mutations ponctuelles et à une insertion de 37 paires de bases. Et pour 33% des autres Africains noirs RH négatifs, on a un allèle DCED qui correspond à une absence, du moins à un changement des séquences RHD qui codait pour les épitopes. On a un changement, on a des séquences RHCE. Et en fait, c'est dû à une conversion génique. Donc, qu'en est-il quand on veut faire un génotypage fœtal érythrocytaire pour les antigènes 2, 3, 4 et 5 ? Ces antigènes sont codés par le gène RHCE qui code pour 4 allèles majeurs. Donc le gène RHCE code pour une protéine transmembranaire hautement homologue à la protéine RHD. Les antigènes... Les antigènes grand C et petit C sont codés par 4 acides aminés et en particulier par l'acide aminé 103. qui est une sérine pour l'antigène C et une proline pour l'antigène petit c. Les antigènes grand E, petit e sont codés par l'acide aminé 226, hein, qui correspond à une proline pour l'antigène grand E et une analine pour l'antigène petit e. La différence entre les antigènes grand C, petit c au niveau de l'acide aminé 133 est due à une substitution d'un seul acide nucléique. Et la différence entre l'antigène grand E et petit e au niveau de l'acide aminé 226 correspond lui aussi à une substitution d'un seul acide nucléique. Donc lorsqu'on va réaliser le génotypage fœtal 2, 3, 4, 5, on doit pouvoir mettre en évidence une mutation ponctuelle dans un contexte où on a une autre mutation majoritaire. Qu'en est-il du génotypage fœtal érythrocytaire non invasif KEL1 ? Donc, les antigènes KEL1, KEL2 sont codés au niveau de l'acide aminé 193. On a une tréonine quand on est KEL2 et une méthionine quand on est KEL1. Cette différence entre ces deux antigènes correspond aussi à une substitution d'un seul nucléotide pour passer d'un état à l'autre. Donc, pareil, pour un génotypage fœtal érythrocytaire KEL1, il va falloir mettre en évidence une mutation ponctuelle. Donc là, je vais vous présenter les techniques qui sont utilisées. Donc, je vais vous les présenter succinctement, parce qu'on ne peut pas les approfondir. C'est juste pour que vous ayez une visualisation de toutes les techniques qui sont utilisées. Donc, la première technique qui est utilisée, c'est la PCR en temps réel. Donc, c'est la technique la plus ancienne et la plus utilisée pour le génotypage fœtal érythrocytaire, que ce soit le D, le grand C, le petit c, le grand E ou lequel. Dans la littérature, il y a plus de 44 protocoles pour les génotypages RHD fœtal non invasifs et les publications sont relativement anciennes, puisque ça commence en 2002. Le principe de ce génotypage, c'est de mettre en évidence l'ADN fœtal par PCR spécifique des séquences fœtales recherchées. Pour cela, on s'aide du CT, c'est le nombre de cycles de PCR pour lequel le signal du produit PCR se distingue du bruit de fond, ce qui va permettre de différencier un signal fœtal d'un signal maternel. Si on n'a pas de signal, ça veut dire que le fœtus est négatif. Si on a un signal tardif, supérieur à 35, alors le signal que l'on voit, c'est un signal fœtal et on peut conclure à un fœtus positif. Si par contre on a un signal précoce, c'est-à-dire un CT qui est inférieur à 30, on a un signal maternel, donc une interférence de l'ADN maternel. Cette technique a l'avantage d'être rapide, peu coûteuse, et elle peut être utilisée à grande échelle. Les inconvénients, c'est qu'il y a des risques de faux positifs par interférence de l'ADN maternel, surtout quand on recherche des mutations ponctuelles. Il peut y avoir du bruit de fond. Et il y a bien sûr un risque de faux négatifs. La deuxième technique qui est utilisée, c'est par spectrométrie de masse, le principe de la méthode Saber, donc Single Allele Base Extinction Reaction. Donc on part d'un pool. Comme pour toutes les techniques, on a un pool constitué d'allèles maternels, d'allèles fœtales. Dans cet exemple, je prends un exemple de recherche de mutations ponctuelles. On fait une amplification de ces allèles de façon aléatoire, et ensuite on fait une étape d'extension avec une amorce d'extension qui va s'hybrider au niveau de juste avant la substitution nucléotidique qu'on veut mettre en évidence. Et en plus de cette amorce, on va rajouter le désoxyribonucléotide qui va s'apparier au nucléotide qu'on va rechercher. Donc lors de l'extension, seul l'allèle présentant le complémentaire de l'acide du désoxyribonucléotide recherché va avoir une extension et pas l'autre. Ensuite, on le passe en spectrométrie de masse qui va nous permettre de distinguer les molécules en fonction de leur masse et de leur charge. Et donc, on va pouvoir mettre en évidence la présence de l'allèle qui a eu l'extension, donc la mutation qu'on recherche au niveau du fœtus. Alors, les avantages, c'est qu'elle peut être utilisée à grande échelle. Il n'y a pas d'interférence avec l'ADN maternel. Par contre, elle est coûteuse puisqu'il faut quand même une spectrométrie de masse. C'est long et il y a toujours un risque de faux négatif. Les nouvelles technologies de PCR qui ont émergé ont permis d'utiliser aussi la PCR digitale afin de faire du génotypage fœtal érythrocytaire non invasif. Donc cette technique, elle est basée sur une préparation de PCR, c'est-à-dire qu'on mélange l'ADN maternel, l'ADN fœtal et tous les produits pour faire une amplification des cibles. Cette préparation PCR va être compartimentée en des millions de petites PCR, en fait, de petites gouttes, et on va lancer une amplification. Chaque goutte va être comptabilisée en sachant est-ce qu'il va avoir amplification ou pas amplification. Ensuite, les amplifications qui sont visibles par fluorescence vont être assignées à un numéro. Il y aura amplification. Celles qui n'ont pas été amplifiées, on mettra zéro. Et vous aurez ce type de résultat, c'est-à-dire que vous aurez le nombre de réactions qui a été analysé, donc savoir s'il y a eu fluorescence ou pas fluorescence, et ici vous avez le nombre de réactions PCR qui ont été positives. C'est une méthode qui permet une quantification absolue et sans établir de courbe standard au préalable. Les avantages de cette PCR, c'est que c'est plus sensible. Elle peut être utilisée à des âges gestationnels très précoces, inférieurs à 11 semaines d'aménorrhée. Et c'est une PCR qui est moins sensible aux inhibiteurs. Donc, ça marche très, très bien. Les inconvénients, c'est que c'est coûteux pour l'instant, mais peut-être que ça deviendra de moins en moins coûteux au fil du temps. Elle est délicate à mettre au point et elle est longue. La dernière technique que je voulais vous présenter, qui a été utilisée aussi pour le génotypage fœtal érythrocytaire non invasif, c'est le NGS, Next Generation Sequencing. Donc là, je vous présente la technique d'Illumina, donc je fais très rapidement. Il faut savoir qu'il y a d'autres types de techniques. Donc, ça se passe qu'on génère une banque d'ADN plasmatique ou d'un produit de PCR de la région cible plasmatique, ou un produit de PCR de la région cible plasmatique. On ajoute des adaptateurs de part et d'autre de ces doubles brins. On dénature l'ADN. Ensuite, l'ADN, on va le fixer aléatoirement à un support. Oui. À un support. Et ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle des PCR bridges, c'est-à-dire qu'on va créer des doubles brins, puis des dénaturations. Et à force de faire des PCR, on va former des clusters qui vont être fixés au niveau des supports. Et ensuite, on va faire une partie séquençage, c'est-à-dire qu'on va dénaturer, on va mettre des désoxyribonucléotides et on va faire une lecture à chaque cycle de base ajoutée par cluster. Et ensuite, on va faire une interprétation. Les avantages de cette technique, c'est qu'il n'y a pas d'interférence de l'ADN. Par contre, elle est coûteuse, bien sûr. Elle est très difficile à mettre au point, puisqu'il faut avoir suffisamment de séquences pour être sûr qu'on a bien attrapé l'ADN fœtal. Elle est longue, et surtout, on a besoin d'un bioinformaticien pour l'interprétation. Donc, toutes ces techniques, elles ont des risques de faux positifs et de faux négatifs. Donc, quelles sont les deux sources responsables des faux positifs ? L'une des premières sources, c'est la présence de variants silencieux érythrocytaires chez le fœtus. Donc ça, c'est un cas qu'on retrouve beaucoup pour le génotypage RHD, puisqu'on a énormément de variants silencieux RHD. Donc pour parer à ce risque, il faut développer des PCR pour discriminer les variants silencieux des variants non silencieux. La deuxième source de faux positifs, c'est l'interférence des contaminations par augmentation de la sensibilité de la technique. On veut une technique très sensible pour pouvoir attraper vraiment l'ADN fœtal s'il est présent. Donc on a des risques de contamination par aérosol lors du prélèvement, lors de la décantation du plasma, lors de l'extraction, du moins à toutes les étapes. Donc bien sûr, il est important de prendre des précautions lors de la technique. Port de charlotte, chargement des plaques de PCR sous enceinte. Pour les faux négatifs, il existe deux sources potentielles qui engendrent des faux négatifs. La première, c'est un problème d'extraction ou d'inhibition de la PCR. Donc, pour parer ce problème, on peut inclure un ADN traceur avant l'extraction, qui va être donc le témoin que l'extraction s'est bien réalisée et qu'en plus on n'a pas d'inhibition de la PCR. Ou sinon, on peut aussi amplifier un gène de contrôle, soit la bêta-globine, soit GAPDH. Ensuite, la deuxième source de faux négatifs, ce serait de conclure à un fœtus négatif par absence d'ADN fœtal. en fait. C'est qu'on n'avait pas d'ADN fœtal au départ. Donc, pour être sûr qu'on avait bien de l'ADN, qu'on a bien de l'ADN fœtal au départ, il est possible d'amplifier le gène SRY, mais alors là, ça va concerner que les fœtus mâles, et dans ces cas-là, ce ne sera valable que seulement pour 50% des examens. Il est aussi possible d'amplifier le gène fœtal RAS F1A qui est hyperméthylé chez le fœtus. On peut amplifier aussi un polymorphisme ou une mutation de gène absent chez la mère et présent chez le père, mais il faut être sûr de la paternité. Et on peut aussi répéter le test sur un second prélèvement fait plus tard dans la grossesse. Ce dernier choix peut permettre aussi d'avoir une concentration plus élevée de l'ADN fœtal et donc d'avoir plus de chances de l'attraper s'il est positif, de rattraper aussi les erreurs d'étiquetage et de rattraper les croisements pré- et père-analytiques des échantillons. Je conclurai ma présentation en vous présentant en fait les critères de l'application du génotypage fœtal RHD non-invasif dans les différents pays. C'est une publication qui est apparue en décembre 2017 dans le Vox Sanguinis. Donc vous pouvez voir que les semaines d'aménorrhée pour lequel le test, les semaines minimales d'aménorrhée pour le test, pour lequel le test peut être réalisé, varient énormément d'un pays à l'autre et peut aussi varier en fonction du contexte de la femme, du contexte clinique de la femme. De plus, on peut voir qu'au niveau des techniques utilisées, tout le monde utilise la PCR en temps réel, sauf les États-Unis qui utilisent la spectrométrie de masse. Et ensuite, les tests supplémentaires qui sont réalisés par les pays pour mettre en évidence l'ADN fœtal si le fœtus est négatif varient aussi énormément d'un pays à l'autre et en plus varient aussi en fonction du contexte clinique. Par exemple, il y a des pays comme le Danemark et le Royaume-Uni qui font une seule détermination, que la femme soit immunisée ou pas. Tout ce qu'ils recherchent, c'est les séquences RHD. Si elles sont là, ils rendent fœtus positif. Si elles ne sont pas là, ils rendent fœtus négatif. Il y a des pays comme la France qui demandent un deuxième contrôle, un deuxième prélèvement quand le fœtus est négatif une première fois, que la femme soit immunisée ou non immunisée. Il y a des pays qui demandent un deuxième prélèvement pour confirmation des négatifs seulement pour les femmes immunisées et pas pour les femmes de prévention. Et ensuite, il y a des pays qui cherchent des marqueurs fœtaux avant de rendre les négatifs. Donc, ces marqueurs fœtaux, ce sera soit SRY, soit la méthylation du gène RAS F1